BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, ambiance estivale cette semaine dans votre émission Retail et Conso. On va parler bikini et tendance mode pour cet été 2023. Avec nous pour en parler, Isolde Andouard, directrice générale d'Undies. Elle sera avec nous dans un instant avec Laure Barillon, notre experte qui est consultante d'Altavia Native et qui abordera les nouveaux relais de croissance des marques à l'approche de cet été. On recevra également Barbara Maiocchi, qui est cofondatrice de la start-up Lifetrain, une start-up qui analyse les tendances pour les marques grâce à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, vous retrouverez aussi l'actualité retail avec Eva Jacquot. Elle est avec nous, on la retrouve juste après l'interview. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business.
Focus Retail, l'interview.
Ambiance coquillage et crustacés cette semaine dans Focus Retail. On va parler de maillot de bain avec nous en plateau, Laure Barillon. Bonjour.
Bonjour Noémie.
Vous êtes notre experte cette semaine, consultante d'Altavia Native. Et notre invitée cette semaine, c'est Isolde Andouard. Bonjour.
Bonjour Noémie.
Merci d'être notre invitée cette semaine. Vous êtes directrice générale d'Undies, une marque de maillot de bain, de lingerie et d'homewear qui a été créée en 2007 par le groupe Etam. Alors c'est vrai qu'Undies a fait sensation dernièrement avec sa dernière campagne été 2023 qui a été réalisée grâce à l'intelligence artificielle. En fait, on y voit une mannequin sous l'eau, mais qui n'existe pas. On se dit juste que la photo a été retouchée. Pourquoi avoir choisi cette stratégie de communication et quelle a été la réaction du public ?
Effectivement, l'IA est un sujet qui questionne beaucoup et qui intéresse beaucoup de marques en ce moment. Et chez Undies, on a eu envie de tester. C'est quelque chose qu'on a eu envie d'essayer de l'intérieur pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. En tant que marque leader auprès de la Gen Z, on a dans notre ADN d'innover. Ça fait partie prenante de nos valeurs. On se challenge et on prend des risques. Donc, on est convaincu que l'innovation technologique est très importante pour rester compétitif et à la pointe. Voilà. Donc, on a eu envie d'essayer d'intégrer à notre campagne marketing 360. Il y a une image pour énormément d'autres, notamment une vidéo avec des vraies personnes. Donc, c'est juste un élément qu'on a essayé.
Mais le maillot de bain qui est sur le cliché, il est réel.
Exactement, c'était juste le challenge. C'était tout le challenge. C'est plutôt aisé de faire une image en IA. C'est beaucoup plus difficile de faire une image en IA d'un corps dénudé.
Il y a quelques défauts sur les mains,
exactement.
D'ailleurs, vous les avez cachés.
Oui, exactement, c'est plus difficile, même si l'évolution est très rapide dans la technologie. Et c'est encore impossible de mettre les produits réels sur des images générées par l'IA. Donc ça demande pas mal de travail. On a travaillé avec des spécialistes, des graphistes, des designers, des DA qui nous ont aidés à réaliser tout ça.
Est-ce que c'est aussi pour donner un coup de fouet à l'image de marque ? A-t-elle perdu de sa désirabilité ces dernières années ?
Écoutez, en tout cas, on veut rester désirable. Ça, c'est évident. Et on a eu envie d'innover. Et si ça peut nous permettre de rester à la page, tant mieux.
Alors, très peu de marques ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour réaliser une campagne. Il y a quand même Stradivarius qui a fait un cliché avec l'intelligence artificielle. Pourquoi, pensez-vous, est-ce que c'est légal en France déjà de faire ça ?
Oui, tout à fait, c'est légal.
Vous l'avez vérifié ? Vous avez
oui, bien sûr, bien sûr, oui. C'est totalement légal. On a travaillé avec nos juristes, on a travaillé avec des juristes du partenaire avec qui on a fait l'affichage pour être en conformité. Et effectivement, on a mentionné sur l'affiche que ça a été généré par l'intelligence artificielle pour être transparent.
Donc c'est important tout de même de mentionner.
Bien sûr, bien sûr.
Alors en 2022, Undies a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Je crois que vous comptez à ce jour à peu près 200 boutiques, 230 boutiques en propre,
200
boutiques en France et à l'international. Est-ce que vous avez d'autres ouvertures de prévues et quels sont les marchés visés ?
Effectivement, on continue à se développer en France et à l'international. On a la chance d'avoir pas mal d'opportunités d'ouverture. Et cette année, on va ouvrir 15 boutiques. Et à l'international, la marque est déjà très présente au Moyen-Orient, au Maghreb, dans les dom-tom. On a bien évidemment une présence en Europe et on envisage encore les États-Unis et l'Asie qui sont deux pays assez complexes, soit parce qu'ils sont très concurrentiels, soit parce qu'ils sont très différents en termes de culture, d'usage de la lingerie. Et ça fait partie de notre feuille de route.
Et est-ce que vous avez prévu d'inaugurer des magasins sur ces marchés ? L'Asie ?
Non, pas encore.
Pas encore. Alors, Undies a fait son entrée sur le marché du maillot de bain de seconde main. C'est encore un projet pilote. En quoi consiste cette nouvelle offre ?
Alors, oui, la seconde main et plus largement l'économie circulaire était un thème qui nous intéressait particulièrement. Et évidemment, c'est une manière évidente de contourner les effets néfastes de l'industrie textile sur l'écologie et l'environnement. Donc, c'est un sujet qui tient à cœur à nos équipes et à nos clientes. Et l'année dernière, lorsque j'ai rejoint Undies, on s'est dit qu'on allait se lancer. Sur la lingerie, c'est pas si facile. Pour des raisons assez évidentes d'usage du vêtement qui se prête moins à la seconde main. Donc on a décidé d'essayer sur le maillot de bain qu'on a considéré comme plus facile à traiter.
Et ce sera uniquement la marque Undies ?
Alors, les maillots qu'on a collectés l'été dernier auprès de nos clientes dans 50 magasins sont de toutes les marques que les clients voulaient déposer. Donc on a été ouvert.
Tout type d'enseigne ?
Tout type d'enseigne.
D'accord.
Nous, on a souhaité faire trois choses avec ces maillots de bain. On se teste. C'est vraiment un projet pilote. Tous les bénéfices, d'ailleurs, seront reversés à Emmaüs. Pour le moment, il ne s'agit pas d'un business model à proprement parler, mais d'un test pour comprendre les rouages. Et donc, on a trois projets. L'un, seconde main pure. Donc, on a une collection de maillots qu'on a nettoyés, mis en place en seconde main, à des prix très, très accessibles. Du coup, 3 euros le haut, 2 euros le bas. On a un projet d'upcycling, là c'est plutôt notre atelier de style et notre atelier de confection français qui a recréé des maillots à partir de maillots recyclés, des pièces uniques made in France. Et on a également, avec les maillots qui nous restaient, recyclé la matière pour faire des objets de décoration pour notre nouveau concept. Du coup, on a des matières recyclées dans notre nouveau concept magasin.
Et quels seront les magasins où on pourra retrouver ces bikinis d'occasion ?
Alors, tout le projet seconde main upcycling se trouve dans le magasin flagship Paris à Opéra, qui va être dédié aux maillots de bain et entre autres aux maillots de seconde main et upcyclés à partir de ce week-end.
Vous êtes une marque, vous faites de la seconde main, mais c'est vrai que vous sortez aujourd'hui aussi des collections tous les 15 jours. Est-ce que vous redoutez pas, on va dire, un type de bashing comme l'enseigne Shein, quand justement elle avait ouvert son flagship il y a quelques semaines, où ça a sollicité beaucoup de réactions?
La question, c'est est-ce que Undies est une marque de fast fashion, selon vous?
Oui, alors ça dépend si on doit se comparer à Chine. On a énormément de différences. La première étant la responsabilité sociale et environnementale, qui n'a absolument rien à voir entre le groupe Etam, qui a un programme de RSE très solide et depuis déjà plusieurs années. Donc chez Undies, 70% de nos produits, plus de 70% de nos produits sont issus de matières recyclées et bio. Et on a un système de traçabilité très strict des conditions de travail et d'exécution des fabricants avec qui on travaille. On a d'ailleurs été une des premières marques à avoir un QR code sur chacune de nos étiquettes qui permet de tracer et de voir l'usine de fabrication. Donc je pense que ça, c'est déjà une énorme différence avec le concurrent ou la marque que vous citez.
Mais la question, c'est est-ce que c'est responsable aujourd'hui de changer de collection tous les 15 jours?
Alors, pour le sujet des collections, en fait, on change de collection. C'est pas exactement qu'on change de collection tous les 15 jours. On a un cœur de collection plutôt stable qui permet d'offrir à notre clientèle la Gen Z qui a un pouvoir d'achat en ligne avec nos offres. Donc notre premier soutien-gorge est à 9 euros et c'est une offre de produits simples, basiques, d'équipements qui sont renouvelés chaque saison. Et après, notre clientèle, la Gen Z, est très friande de nouveautés et d'exclusivité. Donc on a, pour les clientes plus férues de mode et de ces ambitions-là, des renouvellements et des nouveautés qui arrivent tous les 15 jours, mais c'est des capsules en fait, c'est des quantités limitées. On crée souvent la rupture d'ailleurs sur ces pièces. Donc c'est pas du tout une notion de profusion, mais plutôt une notion de nouveauté et d'exclusivité. Donc c'est pas exactement la même philosophie que la fast fashion qui est dans une profusion très frénétique de création de collections.
Mais ça reste de nouveaux modèles. Est-ce que la Chine est un de vos plus gros fournisseurs?
L'Asie est une autre zone de c'est là où on se fournit essentiellement, effectivement.
Et vous dites que vos fournisseurs, ils sont audités très régulièrement dans le respect des conditions du travail. Comment vous réalisez ces deux audits en Chine ou en Bangladesh?
Alors, les audits sont faits tous les ans par un organisme indépendant, bien évidemment, et dans le respect des normes internationales. Et donc, on a une charte très stricte qui respecte les réglementations environnementales et sociétales. Donc voilà, et donc on peut vraiment retrouver sur chacune de nos étiquettes via le QR code l'intégralité des informations. C'est très très rigoureux et c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ça fait 5 ans que le groupe ETAM a lancé son programme qu'il appelle WeCare de RSE, qui a entre autres le thème de la traçabilité, mais pas que.
Gros challenge. Et pour finir, on va vous adresser un challenge avec Laure. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre de devenir cliente de la marque Undies.
30 secondes. Écoutez, donc on est la marque à petit prix. Notre mission de marque, c'est d'être une marque qui vous fournit de la lingerie, des maillots de bain et du homeware à petit prix, de qualité, parce qu'on est dans le groupe ETAM, donc on a un savoir-faire de corsetier, donc notre rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Et en plus, on est RSE, donc c'est une mission qui était assez challenging et qu'on a réussi. On est auprès des tendances. On vous permet de vous habiller, de vous faire plaisir, quel que soit votre style vestimentaire. On a des produits confortables, basiques, plus sexy, plus tendance. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour toutes les femmes, à petit budget, pour se faire plaisir.
Convaincu ?
Alors, c'est pas mal.
C'est pas mal. Bon, on regardera les réactions des internautes sur les réseaux sociaux de BFM Business. Merci beaucoup, Isolde Andouard. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Undies. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot.
Focus Retail, le journal du retail.
Eva Jacot nous a rejoint pour le journal du retail. Bonjour Eva.
Bonjour Noémie.
Après les distributeurs, les industriels de l'agroalimentaire se sont réunis ce mercredi à Bercy pour discuter de leurs tarifs. La synthèse avec vous Eva.
Oui, une réunion de 2 heures concentrée sur les 75 plus grosses entreprises qui s'engagent à réouvrir les négociations avant la fin du mois de mai, d'après Jean-Philippe André, le président de l'ANIA. Alors, il s'engage également à réinvestir en promotion de manière à avoir un impact actif sur le niveau de l'inflation. Sont concernés les prix des produits alimentaires comme non alimentaires. On écoute Richard Panquiot, président de l'ILEC.
Ce qui se passe, c'est que la loi, elle prévoit énormément des étapes, notamment sur la base de clauses. Vous signez un accord le 1er mars, vous regardez ce qui s'est passé en gros au mois de juin. En fait, on va anticiper ce qui était prévu légalement aux semaines qui viennent, alors que c'était plutôt prévu en juin, en juillet. C'est notamment là-dessus qu'on va s'appuyer.
Des renégociations de prix qui devraient le voir le jour dans les prochaines semaines. L'occasion de faire le point aussi sur les produits stars des rayons.
Oui, au palmarès Nielsen, des produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans les supermarchés. Les produits stars évoluent très peu. Les superstars restent l'eau cristalline, le Ricard et le Nutella. Le pack de bouteilles d'eau de cristalline d'1,5 litre détrône donc le litre de Ricard à la première place avec plus d'1 million d'euros générés en plus sur les 12 derniers mois, franchissant la barre symbolique des 300 millions d'euros. Tout en haut du classement, on retrouve les boissons derrière le Ricard, on retrouve Coca-Cola, puis la bière Heineken et l'eau Volvic. Et pour les produits non liquides, eh bien, on retrouve le Nutella, Ferrero Rocher, Caprice des Dieux, puis le beurre doux président.
Voilà, peu de surprises dans ce palmarès. Et les négociations autour de Casino s'accélèrent alors que l'agence de notation Fitch a annoncé baisser la note de Casino d'un cran. La restructuration est lancée, les deux prétendants au rachat font monter les enchères.
Oui, en effet, vous l'avez dit, l'offensive est lancée. Le groupe Casino, surendetté de près de 6 milliards d'euros, est en train de négocier avec ses futurs repreneurs. Après l'offre de Daniel Kretinsky, Teract a amélioré son offre. Xavier Niel serait prêt à investir aux côtés de Moïse Alexandre Zoari, le patron de Teract. Jusqu'à présent, leur offre n'était qu'industrielle. Aujourd'hui, les trois fondateurs seraient prêts à investir des centaines de millions d'euros, se rapprochant un peu plus de l'offre de Daniel Kretinsky, qui a mis, on le rappelle, 750 millions d'euros sur la table. Un conciliateur va être nommé fin mai. Et en attendant, les créanciers devront donner leur accord pour une conciliation et donc renoncer à une partie de leurs créances. Enfin, la prochaine étape, la prochaine réunion aura lieu mardi prochain.
Alors que Lidl va lancer son site en ligne en France la semaine prochaine, Action se déploie aussi en e-commerce en dehors des Pays-Bas.
Oui, Action va lancer son site de e-commerce en Belgique. Sur le site, l'internaute doit cliquer sur l'onglet Webshop qui le redirige vers un site dédié où sont présentées les dernières affaires, les derniers bons plans. Au total, c'est près de 150 produits qui seront disponibles en ligne avec de nouvelles offres tous les mardis à midi. L'objectif ici, c'est de valoriser les produits encombrants en ligne et également animer l'offre présente en magasin.
Et pour finir ce journal, une nouvelle nomination à la tête de Laura Merlin.
Oui, son nom, Agathe Monpays, 28 ans. Elle prendra les rênes des 140 magasins Leroy Merlin dès le 1er septembre prochain.
Merci beaucoup Eva Jacot pour ce journal. On retrouve tout de suite Laure Barillon pour le Focus.
Focus Retail, le Focus.
On retrouve Laure Barillon, consultante d'Altavia Native. Ces derniers mois, on ne parle plus que de pop-up, de seconde main, encore de relocalisation. L'industrie textile va-t-elle si mal, Laure ?
C'est vrai, Noémie, que ça peut paraître un peu paradoxal, dit comme ça, quand on regarde toutes ces initiatives, parce que l'industrie textile est une de celles qui a le plus souffert de la crise. On pense bien sûr à la hausse du prix des matières premières, des transports, de l'énergie plus récemment, et notamment en France.
Pourtant, certaines marques se revendiquent toujours du Made in France.
Alors toujours, effectivement. Mais certaines, du coup, font preuve de beaucoup de créativité pour faire face à cette hausse des prix. Je pense par exemple à l'entreprise Dixon Constant qui s'occupe de textiles dans le nord de la France et qui a décidé de, on va dire, de basculer une partie de sa production le soir et la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.
C'est la hausse des prix qui explique ces mutations du textile ?
Alors, effectivement, en partie, mais pas que. Les grandes mutations du textile aujourd'hui sont surtout mues par la prise de conscience grandissante de l'impact écologique de l'industrie textile dans le monde. Il y a beaucoup, enfin, de plus en plus de marques et d'acteurs qui adoptent une posture militante en faveur d'une consommation plus responsable. On peut par exemple parler de la jeune marque de Julia Fort, Loom, qui a décidé de lancer un indice de réparabilité. Donc, le but étant de jauger la qualité d'un vêtement en fonction du delta entre le rachat des produits neufs et les prix de réparation. Après, évidemment, dans les mutations, la grande mutation, c'est la seconde main. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que toutes les marques s'y mettent, quel que soit le prix, quelle que soit la catégorie des vêtements. On a parlé des maillots de bain avec Undies. La seconde main, c'est un marché qui représente 120 milliards de dollars. C'est un triplement de cette valeur depuis les confinements. Et donc, c'est vraiment une tendance de fond. Et après, en termes de posture militante, parce qu'on en parlait, on peut citer aussi les ateliers du slip qui ont été lancés par Guillaume Gibault, le fondateur du slip français, qui a décidé de faire bénéficier son expertise de relocalisation pour les entreprises qui souhaiteraient le faire en France.
Et d'ailleurs, on le voit, c'est le grand retour du slip de bain chez les hommes, mais c'est ça, vrai. C'est un débouché, alors ?
C'est effectivement plus anecdotique, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est vraiment, on va dire, le combat des marques de textiles pour faire preuve de plus de créativité, et notamment pour contrer la fast fashion. On a parlé notamment de l'initiative de Chine récemment, qui a ouvert son pop-up store à Paris, qui a fait grand bruit.
Et les pop-up stores, d'ailleurs, de plus en plus de marques s'y mettent.
Oui, alors les pop-up stores, effectivement, ça fait partie des autres grands mouvements qu'on observe dans l'industrie de la mode aujourd'hui, quelles que soient finalement même les catégories de produits et la cible pour des gens. Alors initialement, c'est beaucoup des pure players qui ont compris l'intérêt d'événementialiser la façon de commercer leurs produits. Et effectivement, les pop-up stores, c'est souvent des ouvertures éphémères. C'est la convocation de beaucoup d'influenceurs qui font effectivement l'actualité de cette industrie-là.
Et autre levier de croissance important dans ce secteur, l'influence.
Eh oui. C'est vrai que l'influence, le paradoxe de l'influence, c'est que finalement, comme on s'adresse à des communautés, à des micro-communautés, on pourrait penser que ça micro-segmente la cible, ce qui est un paradoxe à l'heure où la mode se veut d'autant plus inclusive et on voit de plus en plus de marques qui sont ouvertes à tous et qui proposent des produits avec des gammes très larges.
On a pu voir Darjeeling il y a 2 ans avec sa campagne.
Oui, c'est vrai. Alors en 2021, effectivement, il y avait grand bruit sur cette campagne avec cette mannequin d'une 60aine d'années qui posait dénudée avec ses longs cheveux poivre et sel. À l'époque, ça avait, on va dire, marqué les esprits. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir des mannequins, on va dire, de toute distinction de corpulence, de genre, de façon de se positionner, de style. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, une valeur forte des marques de pouvoir aller dans cette posture pour inclure tout le monde.
Merci beaucoup, Laure Barillon. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. On va passer des innovations aux tendances. Quelles sont les tendances de cet été ? On en parle tout de suite dans notre rubrique de la start-up.
Focus Retail, le pitch.
On va parler de l'analyse des tendances avec vous, Barbara Maiocchi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et CEO de Life Trend, qui a été créée en 2020. C'est une solution digitale de mode innovante qui fournit aux marques à la fois une veille concurrentielle et des données sur les tendances. Alors, de quelle manière aidez-vous les acteurs du textile à créer des collections à succès ?
Oui, alors déjà, avant tout, c'est pas seulement des collections de succès, mais c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle et aux données de pouvoir vraiment capitaliser sur quels seront les best-sellers de leur collection pour pouvoir aussi éviter de produire des stocks qui vont rester, bien sûr, dans les magasins et après polluer. Donc, c'est vraiment notre mission de pouvoir piloter la créativité pour plus de durabilité. Donc, comment on le fait? On va analyser les données sur les sources qui sont aujourd'hui les plus influentes, qui sont dans le web. Donc, bien sûr, Instagram, les e-commerce, les défilés. Et aujourd'hui, on analyse aussi les recherches que les consommateurs font sur Internet. Donc, pour voir si toutes ces analyses des produits qui sont aujourd'hui, qui se vendent vraiment, correspondent aux besoins et aux envies des consommateurs. Et de cette façon, on peut vraiment conseiller nos clients et donc les marques, les marketplaces, pour vraiment parier sur les bons produits et avoir des produits et des tendances, entre guillemets, qui vont se vendre.
Donc, vous surveillez les marques concurrentes, les influenceurs. Que contiennent exactement les données que vous transmettez ensuite aux marques ?
Alors, notre force chez LifeTrend, c'est qu'on est on a un peu deux pôles. On a le pôle technique, technologique, et on a aussi un pôle mode, comme un peu les deux cofondateurs. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la mode. J'étais à la direction du style.
Passé par Nelly Rodi.
Oui, direction du style, produit de plusieurs marques. J'ai fait du consulting aussi pour les marques côté tendance. Donc, c'est aussi grâce à cette expertise qu'aujourd'hui, LifeTrend fonctionne, parce que bien sûr, il faut penser que les équipes avec lesquelles on travaille, c'est des équipes qui s'occupent de style, de créativité, de merchandising. Donc, si on leur donnait des données brutes, on rajouterait un autre problème encore à gérer. Donc, vraiment, notre force, c'est celle de pouvoir traduire toutes ces données, tous ces chiffres, en quelque chose qui soit concret et compréhensible pour ces équipes. Donc, la plateforme, elle a plusieurs outils. Et un de ceux-là, par exemple, est déjà un espèce de trendbook digital qui se met à jour pratiquement tous les jours avec les nouvelles informations. Et de cette façon, l'information est déjà traduite, est déjà avec des images, déjà avec des recommandations.
La question que je me pose, c'est effectivement, alors vous actualisez souvent, est-ce que ça vous permet d'être à l'affût des signaux tout très faibles? On a parlé d'influence tout à l'heure, donc par exemple, effectivement, un événement avec un influenceur, un acteur qui d'un coup va impulser quelque chose, est-ce que ça vous pouvez le voir?
Exactement. Parce que nous, on analyse les tendances, on va dire, en temps réel, jusqu'à après pouvoir faire, bien sûr, de la prévision et du forecasting, comme on dit en anglais. La force, c'est vraiment celle de pouvoir être à l'affût, par exemple sur Instagram, de tout ce qui va se passer, et surtout des produits, parce que nous, on analyse vraiment le produit, et de voir qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui bouge. Et c'est vraiment dans la détection des signaux faibles où il faut être très fort, parce que les marques, comme vous savez, produisent avec quand même des mois ou des années d'avance, jusqu'à même 18 mois d'avance. Et donc, il faut vraiment être bon à repérer ces signaux faibles. Exactement.
Alors aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui proposent ce service. Comment vous faites pour vous démarquer par rapport aux autres solutions digitales? J'ai vu que vous avez été publié dans la presse internationale comme pionnier du data-driven dans Vogue, Loves ou encore ça. Est-ce que c'est cette communication dans les magazines ou est-ce que c'est d'autres moyens de se différencier?
Alors, on va dire aujourd'hui, oui, on est reconnu pionnier dans cette méthodologie parce qu'on a des concurrents sur le marché, mais ils sont différents dans le sens qu'on a des concurrents technologiques qui sont très spécifiques sur un des médias, donc sur Instagram, sur les e-commerce. Bien sûr, on n'est pas les seuls qui font ce type d'analyse aujourd'hui, mais nous, on est aujourd'hui la seule solution où vous pouvez trouver toutes ces données dans un seul outil et croiser. Donc, on s'adresse vraiment à toute la chaîne de valeur du produit, à différentes équipes. Et donc, c'est ça qui fait notre force. Et bon, on a eu la chance, en tout cas, d'être choisi par des salons internationaux comme partenaire, voilà, de grands salons européens. Et donc, c'est là qu'on a eu beaucoup de visibilité. On a eu la chance d'être le premier au monde à produire un salon et une analyse de tendance data-driven pour un salon international. Donc ça, pour nous, ça nous a donné certainement beaucoup de visibilité.
Et on a envie de savoir avec Laure, c'est quoi les tendances justement pour cet été 2023? Est-ce que c'est le rouge, ce que vous portez?
Alors, on va dire que si on part de couleur, cet été, on peut faire un peu le discours, dans le sens qu'il y a de la visibilité, il y a de la croissance, mais il y a aussi le côté commercial, la performance commerciale. Ça, c'est un peu voilà, des axes que nous, on analyse. Donc certainement, si je dois parler de visibilité, cet été, c'est des coloris forts. Donc le fuchsia, le vert, le lilas, c'est vraiment les couleurs qui ont le plus de croissance et plus de visibilité sur cet été.
On parle vraiment de beaucoup données. Beaucoup de lilas, notamment dans les casquettes.
Oui, puis sur là, maintenant, avec tout le côté cérémonie, donc sûrement, c'est une couleur qui est aussi mise en avant pas mal aussi dans les e-commerce. Donc ça, c'est les dernières données qu'on regardait hier, par exemple, sur la plateforme. Mais on voit que toutes ces données quand même évoluent, parce que bien sûr, la tendance va évoluer sur des autres couleurs. Et comme on analyse voilà, tous ces signaux faibles, on voit que déjà sur l'hiver, plusieurs couleurs plutôt orangées, par exemple, vont arriver. Les rouges qui vont remplacer ce fuchsia, qui ça fait longtemps qu'on le voit dans les assortiments et le client a envie un peu de changer. Et donc voilà, les couleurs évoluent. Donc nous, on trace vraiment ces lignes pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer aussi demain.
Bon, ben bah voilà, un petit maillot de bain fuchsia pour cet été, alors.
Oh, je l'ai déjà.
Bah voilà. Bah, merci beaucoup, Barbara Mayuki. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Live Trend. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
Merci.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
En matière de tendance, justement, Laure, comment les Français prévoient-ils de préparer l'été ?
Bah écoutez, l'été, ça reste une période clé pour les Français qui, comme pour Noël dernier d'ailleurs, ne prévoient pas de lésiner sur leurs dépenses. C'est-à-dire qu'on a un chiffre de 400 euros, c'est la différence entre le budget des Français l'année dernière et cette année pour préparer les vacances d'été 2022. Et c'est important de mettre ça en regard des prévisions de consommation sur toute l'année 2023, où trois quarts des Français disaient qu'ils allaient massivement baisser leur consommation, tout secteur confondu, y compris l'habillement.
Et justement, est-ce qu'il y a un arbitrage au niveau vestimentaire ?
Alors, disons qu'on ne peut pas forcément dire que, dans les faits, la consommation a drastiquement chuté. En revanche, elle a muté. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, la grande tendance, c'est la seconde main. Et aujourd'hui, la seconde main, ça touche en fait tout le monde, toutes les catégories de produits et même la lingerie de bain, comme on l'a vu tout à l'heure.
Un été placé sous le signe du déjà-vu, alors ?
Alors le déjà vu, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Français étaient massivement restés en France, évidemment autour des confinements, qu'il y a eu un grand regain, on va dire, de vitalité dans les projets de l'année dernière, mais on le voit surtout cette année. 60% des Français déclaraient en début d'année vouloir partir pour cet été, et ils étaient déjà aussi 56% à le prévoir sur le premier semestre. Donc il y a vraiment un désir de changer.
Et tout ça, c'est beaucoup d'organisation.
Alors, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup effectivement de prévision, c'est-à-dire que trois quarts des Français ont prévu de réserver au moins un mois à l'avance leurs vacances d'été et ça, ça a un impact évidemment sur le budget, puisque 400 euros de plus que l'année dernière, ça correspond à une valeur absolue d'à peu près 2300 euros de budget vacances par Français en 2023, ce qui n'est pas rien.
Et puis un impact aussi sur la planète, là où les Français sont souvent contradictoires.
Ah bah, c'est sûr que qui dit vacances dit souvent déplacement, et c'est pas forcément les transports les moins polluants qui sont plébiscités, puisque effectivement la voiture, l'avion restent en devant le train en termes de moyens de transport privilégiés pour ces vacances. Donc ce qu'on peut dire finalement, c'est que cet été, en tout cas, reste un endroit où les Français veulent de l'évasion, indépendamment même des considérations écologiques ou même budgétaires qui ont trait tout au lieu de l'année.
Voilà, les Français qui ont besoin de s'évader, j'imagine que tout ça, c'est aussi le résultat du Covid.
Et bien, de toutes les frustrations accumulées des dernières années, c'est sûr.
Merci beaucoup, Laure Barillon. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.